une rediffusion. Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, défense de l'environnement, lutte contre l'extrême droite, les mamies allemandes embrassent les grandes causes. Tout part d'Autriche en 2017, à l'époque des retraités manifestent toutes les semaines contre l'entrée au gouvernement du parti d'extrême droite, le FPE. Depuis, le mouvement a fait des émules et on compte plus de 50 groupes de mamies en Allemagne. À Berlin, le collectif s'est formé il y a un peu plus d'un an. Déborah Berlioz les a rencontrés.
Vendredi dernier, des milliers de jeunes ont préféré marcher pour le climat plutôt que d'aller en cours. Et ils n'étaient pas les seuls. Au milieu des écoliers, des mamies aussi, mobilisées pour protéger la planète. Marion, 70 ans et 8 petits-enfants, tenait absolument à venir.
Mais nos petits-enfants vont manifester, donc c'est évident que nous devons les soutenir. Et je pense qu'il y a une bonne alchimie entre les mamies et les enfants.
À leur passage, les mamies se font acclamer par les écoliers. Lily et sa copine, 12 ans, se prennent même en photo avec elle.
Nous trouvons ça génial qu'elles viennent aussi. Et de voir que tout le monde s'engage, pas que les enfants.
L'engagement de Marion ne se limite toutefois pas à la manifestation du jour. Elle fait partie du groupe Omas gegen Rechts, les mamies contre l'extrême droite. Leur objectif est de se battre contre la droitisation de la société allemande. Barbara, 65 ans, est retraitée depuis quelques mois. Elle vient tout juste de rejoindre les mamies militantes. Elle estime qu'elle a une responsabilité envers ses petits-enfants.
Quand mes enfants sont nés, je ne me suis pas vraiment demandé quel monde nous allions leur laisser. Mais maintenant, avec mes petits-enfants, cette question est beaucoup plus pressante, notamment en ce qui concerne le climat, mais aussi la situation politique. C'est ce qui me motive.
Les populistes du parti Alternative pour l'Allemagne multiplient en effet les succès. Début septembre, ils ont encore dépassé les 20% dans deux élections régionales. Ces résultats font peur à Barbara et Marion. Les deux sont nés après la guerre, trop jeunes pour avoir connu le nazisme. Mais Marion a grandi avec les conséquences du Troisième Reich.
Tous mes camarades de classe avaient des pères qui étaient revenus mutilés de la guerre, ou bien qui étaient agressifs, ou qui les battaient. Cette guerre était dans nos gènes et elle a influencé toute notre éducation. Je pense que beaucoup de gens ont oublié tout ça ou veulent l'oublier. C'est pour cela que nous, les mamies, devons leur rappeler ce qui s'est passé et que cela peut se répéter.
Ces femmes ne sont pas des néophytes quand il s'agit de manifester. La plupart étaient déjà sur les barricades en 68. Mais de nos jours, le regard de la société n'est pas toujours clément envers les femmes âgées. Gertrude fait partie des membres fondateurs du groupe de Berlin. Avec son action, elle espère bien montrer que les mamies ne sont pas bonnes qu'à tricoter et à faire des gâteaux.
Nous sommes des femmes âgées actives et fantastiques. Nous avons déjà fait bien des choses dans notre vie. Nous avons participé à la réunification. Nous connaissons l'échec et nous savons comment le surmonter. Par ailleurs, nous sommes pour la plupart libérées de l'agitation de la vie professionnelle.
Ces femmes ont donc plus de temps pour s'engager que leurs enfants et leur planning est bien rempli. Un jour, elles marchent pour protéger la planète, l'autre contre l'extrême droite. Samedi dernier, elles ont même perturbé une manifestation anti-avortement. Et à chaque fois, elles sont bien accueillies par les autres militants. Marion a même sympathisé avec des membres du Black Bloc.
Sur les manifestations, j'ai regardé dans les rangs du Black Bloc et je ne les ai pas trouvés aussi effrayants qu'on le dit. Au contraire, sur certaines grosses manifestations, ils ont même voulu se mettre devant nous pour nous protéger.
Quant à ses petits-enfants, les plus âgés sont un peu gênés de voir Marion au milieu des antifascistes. Mais d'autres sont fiers de leur grand-mère.
Ma petite fille de 12 ans va maintenant aux manifestations de Friday for Future et elle m'envoie des photos d'elle avec sa pancarte sur WhatsApp en disant « Mamie, nous sommes une super équipe ».
Et les papis dans tout cela ?
Nous y travaillons. Malheureusement, les papis sont encore peu présents. Sur les manifestations, ils nous acclament et disent que ce que nous faisons est génial. Mais ils ne viennent pas à nos réunions. Ils n'osent pas trop se mêler à autant de femmes à la fois. Je crois que nous leur faisons un peu peur.
Ce jour-là, un papy marche toutefois avec le groupe de Marion et il porte même le badge des Omas gegen Rechts. Tout comme lui, plus de 200 000 personnes ont défilé à Berlin vendredi dernier et le combat n'est pas fini. Le 7 octobre prochain, le mouvement Extinction Rebellion prévoit de bloquer les rues de la capitale allemande afin de forcer le gouvernement à déclarer l'état d'urgence climatique. et Marion a déjà prévu de se joindre à eux.
Les Autrichiens votent dimanche pour renouveler leur Parlement. Le score de l'extrême droite sera bien sûr scruté de près, mais l'environnement s'est aussi invité dans la campagne électorale. La question des transports est particulièrement sensible. La pollution des voitures et des camions, c'est le gros point noir en Autriche, l'un des 5 seuls pays de l'Union européenne où les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté entre 1990 et 2017. Pour remédier au problème, il y aurait des solutions comme le train. Céline Béal est montée en voiture. Elle a traversé l'Autriche pour faire le point sur cet enjeu écologique et politique.
Pour traverser l'Autriche, rien de mieux que le train de nuit. Alors que les voisins européens, bien souvent, ferment leurs lignes, la compagnie ferroviaire autrichienne ÖBB investit et a même racheté des lignes allemandes. Avec la ligne Nightjet 246, on traverse le pays d'est en ouest. Le train part le soir à 11h de Vienne, la capitale, et arrive le lendemain à 8h30 dans la région alpine du Vorarlberg, à Brégance. On rencontre beaucoup d'habitués. Ce quinquagénaire du Vorarlberg se décrit carrément comme un fan du train de nuit.
C'est mieux que de prendre l'avion. Il n'y a pas d'enregistrement ou d'attente des bagages. Que j'aille me coucher à 10h ou que je m'allonge dans le train, ça revient au même. Le lendemain matin, je suis reposé et j'ai déjà pris mon petit déjeuner quand j'arrive. On ne peut rêver mieux.
Quelques voitures plus loin, des personnes voyagent assises. La plupart d'entre elles ne font pas tout le voyage jusqu'à Brégance. Une jeune étudiante de Basse-Autriche, aux cheveux courts vert foncé, explique que pour elle, l'écologie est très importante. C'est pour cela qu'elle prend le train. Katharina a même déjà participé à une manifestation Fridays for Future à Amstetten.
Juste parce que je trouve ça super intéressant et que je voulais sentir l'ambiance. Je ne sais pas, c'est important, c'est tout. Nous vivons sur cette planète et ce serait nul quand même de détruire notre chez nous.
Pourtant, Katharina ne donnera pas forcément son suffrage aux Verts dimanche prochain. Il faut dire que ces derniers mois, tous les partis ont fait des propositions allant dans le sens de l'environnement. Même l'extrême droite qui, comme les autres, jure par exemple vouloir investir 1 milliard par an dans les transports de proximité. Contacté par téléphone, Markus Kanzlerer de l'ONG VCE, spécialiste des transports et de l'environnement, confirme. Il y a urgence.
Les transports sont le plus gros problème pour l'environnement, car à la différence d'autres secteurs comme l'industrie, l'énergie ou le bâtiment, les émissions de CO2 y ont énormément augmenté ces dernières décennies. Il y avait eu une amélioration ces dernières années, mais elles augmentent à nouveau depuis 3 ans. Donc on ne voit aucun progrès, alors que les émissions doivent être réduites d'un tiers d'ici 2030.
C'est ce à quoi l'Autriche s'est engagée au niveau international. Pour atteindre cet objectif climatique, le transport ferroviaire joue un rôle crucial, selon l'ONG. Mi-septembre, l'ancien chancelier Sébastien Kurz, en pleine campagne électorale, souligne que son pays est déjà la nation du train. Les Autrichiens font en moyenne plus de 1400 km en train par an. En Europe, il n'y a guère que les Suisses pour faire preuve de plus d'enthousiasme pour le rail. Certes, mais il faut faire plus, dit Markus Kanzlerer.
En Autriche, les trains n'engendrent que 14 grammes de CO2 par voyageur ou kilomètre. Si on veut atteindre nos objectifs climatiques, il est nécessaire que davantage des trajets qui sont actuellement effectués en voiture soient transférés sur le rail, qui est plus respectueux de l'environnement, et cela dès aujourd'hui.
Les partis politiques ont bien compris l'enjeu. En ces temps d'élection, ils rivalisent de propositions. Mais cet engouement des Autrichiens pour le rail cache une autre réalité. Le transport passager augmente d'année en année, pas celui des marchandises. Pour faire progresser le fret, le pays s'est lancé dans de grands projets d'infrastructures. Le plus spectaculaire, le tunnel de base du Brenner, dans le Tyrol. On y parvient en descendant du train de nuit à Innsbruck. Les travaux pour ce passage sous les Alpes entre l'Autriche et l'Italie ont débuté en 2006 et devraient être achevés dans 10 ans. L'emplacement est stratégique pour l'Autriche puisque 40% du fret transite par ici, actuellement par l'autoroute et sur d'anciennes voies ferrées peu praticables. L'attaché de presse Andreas Ambrosi explique que le Brenner se situe à un point névralgique.
Nous nous trouvons ici dans le corridor scandinave méditerranéen qui est très important. Il va d'Helsinki en Finlande à Palerme en Italie et après La Valette. Et ici dans les Alpes, il y a un goulot d'étranglement. C'est ici que nous construisons le tunnel de base du Brenner pour que les trains puissent rouler très vite sur une voie performante pour relier les espaces économiques du nord et du sud.
Cet été, un conflit a éclaté avec le voisin allemand après que le gouvernement du Tyrol autrichien a décidé d'imposer des interdictions de rouler sur certaines routes pour les camions en transit, car les voies existantes sont complètement engorgées. Le tunnel du Brenner est un méga projet chiffré à 9,3 milliards d'euros. Les coûts sont partagés avec l'Italie et l'Union européenne est également impliquée. Le but est que la moitié des marchandises transportées actuellement en camion puissent ensuite passer par le Brenner en train. N'est-ce pas un peu optimiste alors que pour les transporteurs, le camion est encore beaucoup moins cher? Pour Andreas Ambrosi, le transport ferroviaire peut être rendu intéressant économiquement si le tunnel est imbriqué dans un système bien pensé.
Les traités stipulent que des voies de raccordement doivent être construites au nord et au sud pour que le tunnel réalise son potentiel. Pour que les trains qui passent ici soient économiquement viables, il faut ces voies de raccordement ainsi que des terminaux. Ils sont planifiés et devraient être bientôt construits.
Un projet pharaonique qui ne sera pas terminé avant 2029 et qui ne réalisera son potentiel que si ses voisins, l'Allemagne et l'Italie, jouent le jeu et construisent des raccordements. Or, il semblerait que les partenaires n'avancent pas encore beaucoup sur ces questions.
Ce sont de vraies attractions touristiques dans le centre de Skopje et le symbole de l'absurdité nationaliste. De gigantesques statues du guerrier à cheval et du guerrier des temps anciens érigées par les nationalistes conservateurs de l'ex-premier ministre de droite, Gruevski, aujourd'hui réfugié politique chez Viktor Orban. Une provocation dénoncée à l'époque par Athènes, mais depuis l'accord historique sur la Macédoine du Nord, l'heure est à l'apaisement et les monuments vont être rebaptisés, Louis Seyé.
Impossible de ne pas les remarquer quand on se balade dans le nouveau centre de Skopje. Les statues très kitsch et guerrières d'Alexandre le Grand sur son cheval ou de figures de l'église orthodoxe sont devenues les principales attractions de la capitale macédonienne. La plupart des touristes semblent apprécier et certains n'hésitent pas à monter sur d'immenses lions dorés pour se prendre en photo. Ces gigantesques ouvrages de bronze et de marbre ont été érigés au début des années 2010 dans le cadre du projet Skopje 2014. Nicolas Gruevski, le premier ministre d'alors du parti de droite nationaliste, voulait exalter un passé antique légèrement fantasmé et redorer l'image de ce petit pays des Balkans. Le projet avait fait la polémique, s'attirant les foudres de la communauté albanaise du pays, et surtout du voisin grec, qui y dénonçait des provocations historiques. Skopje 2014 n'a en tout cas pas brillé par sa transparence, le projet aurait coûté plusieurs dizaines de millions d'euros aux contribuables. Les accusations de corruption et d'abus de pouvoir ont d'ailleurs eu raison de ce premier ministre nationaliste. En 2016, il a été poussé à la démission par la communauté internationale. Par crainte de se retrouver en prison, il a choisi la fuite et il est aujourd'hui réfugié politique dans la Hongrie de Viktor Orban. Depuis leur arrivée au pouvoir en 2017, la coalition de sociaux-démocrates a fait le choix de l'apaisement. Elle a signé un accord historique avec son voisin grec, mettant fin à 27 ans de querelles. Le pays s'appelle aujourd'hui la Macédoine du Nord. Pour illustrer cette ère nouvelle, les encombrantes statues de Skopje devraient être rebaptisées et occupées de nouvelles fonctions. Le guerrier à cheval ou le guerrier des temps anciens seront appelés Alexandre le Grand et Philippe II et célébreront l'amitié avec la Grèce.
This video game will present players with opportunity to save lives in urban landscapes.
Elle, c'est une diva de l'art contemporain, une pionnière de la performance artistique. Elle revient au pays 44 ans après sa dernière exposition à Belgrade. Marina Abramović revient dans la capitale serbe pour une rétrospective de l'ensemble de son œuvre. L'occasion pour la jeune génération de redécouvrir les performances qui ont fait la célébrité de cet artiste, Laurent Gélin.
Des tableaux, des photographies, des travaux audios et vidéos, en tout plus de 120 œuvres sont proposées au public du musée d'art contemporain de Belgrade. 120 œuvres pour une vie de création, celle de l'immense Marina Abramović, qui repousse toujours plus loin les limites de l'art corporel. Après la libération sexuelle des années 1960, la jeune Marina fréquente l'Académie des Beaux-Arts et invente l'art de la performance avec d'autres artistes de la capitale yougoslave. Elle utilise des objets dangereux et des médicaments afin de se mettre à l'épreuve. En 1974, à Naples, elle abandonne son corps durant 6 heures à côté d'une table où sont posés 72 objets, dont une rose, une plume, des ciseaux, un scalpel, une arme à feu et une balle. Au début timide, le public finit par violenter l'artiste. Marina Abramović a toujours cherché à créer une forme d'expression ritualisée qui doit mener à une transformation intérieure et à une transgression des codes qui régissent la société. Au cours de la rétrospective présentée à Belgrade, sont aussi proposées des re-performances, des performances de l'artiste interprétées de nouveau par de jeunes danseurs pour perpétuer ces échanges d'énergie avec le public. L'occasion peut-être pour les artistes serbes contemporains de se rêver un destin à l'international, même si les subventions accordées à la création se réduisent chaque année en Serbie, et même si certains détracteurs reproche à Marina Abramović d'engloutir pour une exposition le budget annuel du musée d'art contemporain de Belgrade. Music.
La musique avec Vincent Teval en studio avec nous. Et cette semaine, Vincent, nous écoutons la Norvégienne Jenny Wahl.
Et oui, à l'aube de la quarantaine, la Norvégienne Jenny Wahl publie un nouvel album qui est à l'image de son parcours audacieux et imprévisible. Jenny Wahl a vécu quelques années en Australie où elle a étudié l'écriture et la littérature. Et à son retour en Norvège, au milieu des années 2000, c'est d'abord dans ce registre qu'elle s'épanouit, en collaborant avec des journaux et des revues, puis en publiant son premier roman, avant de composer et d'écrire des chansons qui marient qualité narrative et tentation expérimentale et synthétique. Autant d'éléments qu'on retrouve sur The Practice of Love qui vient de paraître et où la Norvégienne s'associe à trois autres musiciennes, la Singapourienne Vivian Wang, l'Australienne Nora Jean et la Française Felicia Atkinson pour une superbe collection de 8 titres qui questionnent des notions aux frontières souvent communes, l'altérité, l'amour, l'intimité, l'empathie et le désir. The church bells swiping in the mud. We're two fingers and one in your mouth wandering.
I was a thumbsucker, what am I now? I was a thumbsucker, what am I now? Am I a traveler? Was I ever? What do I just call around the clear lines? Do I just turn away from every confrontation? Bites into bleeding. This is my strange voice. What's up? Self-harming vampire, she always says, of the tender kind, she always says, compensation, she always says, for something too wild, 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 alternating mouth and thumb, forest and human, both transforming, producing nothing until. Got afraid that I dug too deep. Instead of something in the body, the glands of instinct, fear and desire.
On se quitte avec Jenny Wahl et Vincent Teval. Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous nous retrouvez en podcast sur le site RFI.fr et sur les réseaux sociaux. À bientôt.